Eh bien, la Chine a réussi un exploit qu'aucun autre pays n'avait accompli jusqu'à maintenant. Il faut considérer, je pense, de plus en plus la Chine comme étant un joueur dans l'exploration spatiale, au même titre que les Américains et les Russes. Et ils ont réussi à poser un engin sur la face cachée de la Lune. Alors, pourquoi aller explorer la face cachée de la Lune? On en parle avec Benoît Laplante, qui est spécialiste en mission spatiale. Bonjour, M. Laplante.
Bonjour, M. Lacroix.
Alors, d'abord, disons, expliquons un peu quel est l'exploit que les Chinois ont réussi.
Ben non, c'est que le côté obscur, bon, on appelait ça le côté obscur, qui est pas vraiment le côté obscur, là, on en parlera un peu tantôt, mais le côté, la face cachée de la Lune, c'est oui. La face qu'on ne voit jamais du côté de la Terre. Donc, c'est difficile, côté radio, envoyer des signaux à une sonde qui va atterrir pour faire des ajustements. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est envoyer au préalable un satellite qui est à environ 85 000 km en orbite plus loin que la Lune pour envoyer un relais signal à cette fameuse sonde-là qui a atterri hier. Donc, c'est vraiment quelque chose de spécial parce qu'on l'a dit, tu pars puis tu vas probablement atterrir par toi-même. Là. Donc, ouais. C'est vraiment quelque chose de particulier.
Mais est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient essayé avant? Est-ce que les Américains avaient essayé d'envoyer une sonde de ce côté-là?
On s'est vraiment toujours concentré sur le côté qu'on voit ici, le côté illuminé de la Terre, là, du mm-hmm. côté de la Terre. Du côté sombre, on savait que c'était difficile, justement, à cause de ces informations radio-là. On n'avait pas vraiment envoyé de satellite, justement, dédié à faire cet atterrissage-là. Donc, on n'avait pas vraiment fait de ça avant. Mais on avait toujours dit, il y avait Harrison Schmitt, qui était un géologiste, qui était membre de Apollo 17, qui avait demandé à la NASA à ce moment-là, envoyez-nous atterrir sur ce côté-là, parce qu'on a beaucoup plus de richesse du côté géologie, puis beaucoup plus d'informations à aller chercher. Puis on avait décidé que c'était trop risqué, on avait discuté de communication, donc on avait décidé de ne pas aller atterrir là. Mais c'est pas la première fois qu'on veut y aller, mais c'est la première fois qu'on tente d'y aller et qu'on atterrit avec succès, selon ce que les Chinois nous disent.
Bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette sonde-là? Qu'est-ce que ça transportait, l'espèce de module là, qui s'est posé?
Il y a un module, c'est principal là, qui est là avec des informations, des transmetteurs, des émetteurs, mais aussi un petit robot qui va se promener un peu à la surface. On parle d'une sonde de 1200 kilos, donc c'est quand même assez impressionnant comme sonde. Et il y a pas mal d'équipements à bord, il y en a 4-5, là, puis je vous donnerai les acronymes, on va vous mélanger plus que d'autres choses. Ouais. Mais il y en a un, c'est vraiment pour mesurer la dose de neutrons que les astronautes pourraient avoir à la surface de la Lune, chose qu'on n'a jamais vraiment fait auparavant. On veut aussi voir, produire des images de la structure du sol lunaire, vraiment quelles sont les strates, quelles sont les couches, la croûte qu'on a aussi à cet endroit-là, parce que à l'endroit où on a atterri, dans le fameux cratère Von Karman, c'est un cratère qu'on pense qu'il n'y a pas eu vraiment il y a eu un contact, et puis on peut voir la Terre, ou si vous voulez, le sol de la Lune nu. Donc, on est vraiment dans un endroit où on n'a vraiment pas vraiment de poussière ou quoi que ce soit. Donc, on est vraiment direct sur la roche. Et puis, on veut vraiment être capable de voir, de faire une image beaucoup plus précise là, du sous-sol, si vous voulez, de la Lune. L'autre chose qu'on a aussi, c'est on veut calculer le type de minéralogie qu'on a dans le cratère, qu'est-ce qui a été déposé par ce fameux impact-là. Et puis, on a amené aussi dans une sphère des graines de pommes de terre et des choses comme ça, à savoir comment la photosynthèse va fonctionner dans une microgravité. C'est pas la première fois qu'on fait ça. On fait pousser de la salade et des choses comme ça à bord de la station spatiale, mais on voulait quand même voir comment le tout se ferait sur la Lune avec un sixième de gravité.
Ça prend de l'oxygène, non, pour faire germer?
Dans une petite sphère, on a mis de l'oxygène, on a mis un petit peu d'eau qui va rester là-dedans. Donc, on veut voir vraiment comment le tout va réussir. Puis, l'autre chose aussi, c'est qu'on veut faire des observations astronomiques en basse fréquence. Et une des choses qui est vraiment intéressante, en étant de l'autre côté de la Lune, à un autre côté de la Lune exactement, donc, on coupe vraiment les interférences que la Terre pourrait émettre quand on fait de l'observation astronomique radio. Donc, c'est une autre chose qu'on veut tester.
Bon, vous avez dit que l'un des objectifs, c'est mesurer la dose de neutrons que prendraient les astronautes à la surface de la Lune. Est-ce que ça veut dire que cette mission-là est précurseur à l'envoi d'astronautes sur la Lune, des humains, donc sur la Lune, comme on a fait dans le passé avec les missions Apollo?
Absolument. Les Russes en parlent, les Américains en parlent pour les prochaines années, et les Chinois en parlent beaucoup. Les Chinois aussi parlent non seulement d'envoyer des humains, mais on parle d'envoyer fin 2019, si les choses ne changent pas, une autre sonde sur la Lune qui va prendre un échantillon et va la ramener sur Terre. Donc, ça va être une des choses vraiment intéressantes pour eux à faire. Et puis, par la suite, on parle vraiment là, d'avoir deux plans. Un plan pour envoyer une base habitée vers la Lune, et puis par la suite, aller vers Mars. Donc, les Chinois ont beaucoup d'ambition, et je lisais un peu les commentaires des, des dirigeants américains qui disent ben faut qu'on garde notre place, ben sont en train de se faire damer le pion un peu.
Ah là. Oui, hein?
La chose qui est intéressante aussi de voir, c'est la Chine fait beaucoup de développement de choses qui ont déjà été faites. Si vous regardez les lanceurs chinois, puis vous regardez les lanceurs russes, et ça se ressemble étrangement. Donc, on prend quelque chose qui fonctionne déjà, on l'améliore et on le développe. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait avec eux. Mais du côté américain, il va falloir qu'on mette en place un plan beaucoup plus ferme pour la NASA parce qu'on est en train de se faire dépasser. Là.
Qu'est-ce qu'il y a de différent du côté caché de la Lune que du côté que nous, on peut voir? Là, et c'est quoi la grande différence? On dit que la géologie n'est pas du tout pareille, là, qu'il y aurait davantage de montagnes ou d'aspérité, si on veut, du côté caché de la Lune.
Bon, on parle aussi de possibilité d'avoir des coulées de lave, mais pas coulées de lave actives, là, mais des coulées de lave dans le passé, et on veut vraiment étudier ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce côté-là a plus de ces différences géologiques-là? Peut-être parce qu'on a appris pas mal ce qui se passait sur le côté qu'on a de visible. Mm-hmm. Donc, on va aller voir de l'autre côté qu'est-ce qui s'est passé là, quelle a été la formation de la Lune, qu'est-ce qui se rapproche avec la Terre, un peu faire le lien, savoir comment a été créée la Lune, puis tout ça. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir la différence de ce côté-là vis-à-vis du côté qu'on a la chance d'avoir toujours.
Okay. Est-ce qu'il y a un intérêt scientifique ou c'est juste de dire, regardez, nous autres aussi, on est capable de le faire? Parce qu'on est allé sur la Lune, on a pris des échantillons, on les a analysés. Il me semble que si les Américains avaient vu un potentiel extraordinaire géologique, il me semble qu'ils seraient retournés.
C'est un bon point, puis je pense qu'il y a un peu des deux. Là. Les Chinois, je pense, veulent se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables d'être présents dans l'espace et de pousser un peu le développement technologique. Mais je pense aussi qu'il y a le côté aussi scientifique. On veut vraiment faire un peu plus d'études sur notre bonne vieille Lune. Là. On a des images de l'extérieur de la Lune, du côté qu'on voit, mais de l'intérieur, on n'en a pas vraiment beaucoup. Donc, avec ce petit robot-là, on devrait avoir une meilleure image un peu là, de ce qui se passe en dessous du manteau de la Lune et puis tout ça. Donc, mais tu as raison, les Américains ont découvert certaines choses là-haut. On sait que de l'hélium-3, qui est un carburant intéressant pour aller ailleurs, on dit qu'il y a de l'eau au pôle sud de la Lune, dans des zones cachées du Soleil. Donc, mais je dois te dire que dans les 20 prochaines années, il va y avoir des gens qui vont marcher là-haut. Là.
Ah oui, hein, on va envoyer... Puis là, installer une base vraiment habitée où on pourra envoyer des astronautes, par exemple, pendant une période plus prolongée. Là, qui pourrait s'installer là plus qu'une couple d'heures puis revenir ensuite comme on a fait avec Apollo. Là.
Exactement. Mais la Lune va devenir un peu comme un genre de pied à terre pour aller ailleurs après. Parce qu'on a seulement qu'un sixième de la gravité terrestre. Donc, si vous partez de là pour aller vers Mars, ça vous prend beaucoup moins de carburant, beaucoup moins de propulsion. Donc, la journée qu'on va mettre une base là-haut va devenir un peu une place pour raffiner un peu notre façon de travailler, de devenir une base pour aller plus loin. Donc, on parle aussi d'avoir une station spatiale qui va orbiter autour de la Lune avant d'avoir une base. Donc, dans les années à venir, il va y avoir plein de choses qui vont se développer. Puis, c'est de bonne guerre de voir les pays qui se poussent. Mais moi, j'aimerais vraiment que les pays se mettent ensemble, ça irait beaucoup plus vite, puis ça serait pas mal plus intéressant, je pense.
Ben oui,
qu'on prenne des décisions.
C'est ça, qu'on mette la technologie que chacun développe ensemble pour le bienfait de l'humanité. Là. Parce que là, on a l'impression qu'on est en compétition sur quelque chose qui se passe même pas sur la Terre. C'est un peu.
Exactement. Mais il faut dire peut-être que quand il y a de la compétition, c'est dans ces moments-là qu'on développe le plus vite. Donc, c'est peut-être ça aussi qui va nous faire aller. Rappelez-vous, dans les années 60, là, si ce n'est pas été de la fameuse course vers la Lune entre les Soviétiques et les Américains, on ne sera jamais aller sur la Lune. Ben, c'est la même chose pour le retour sur la Lune ou Mars. Si les Chinois parlent d'y aller puis on met des choses comme ça en place, ben, je pense que les deux autres puissances vont décider eux aussi d'aller d'avant.
Est-ce que les Chinois ont déjà envoyé des gens dans l'espace?
On a déjà eu une station spatiale chinoise qui était en orbite pendant un bout de temps, qui est revenue sur Terre cette année, mais les Chinois ont déjà envoyé des astronautes qui ont passé plusieurs semaines dans leur laboratoire scientifique dans l'espace dans les dernières années. Puis c'est pas la première fois qu'on envoie non plus une sonde sur Mars. En 2013, on avait envoyé Chang'e 3 qui avait été envoyé de l'autre côté de la Lune avec un petit robot, et puis ça avait fonctionné pendant une centaine de jours, et puis là on envoie maintenant Chang'e 4 et Chang'e 5 plus tard cette année. Donc pour eux, c'est pas la première fois qu'on envoie premièrement des gens dans l'espace et deuxièmement d'une sonde vers la Lune. Okay.
Donc ils ont la technologie, ils sont capables de le faire. Là.
Absolument, absolument. Ouais.
Ouais. Ok. Ouais. Mais est-ce que les Américains, parce que les Américains aussi se sont engagés à retourner sur la Lune éventuellement, n'est-ce pas?
Absolument. C'est Jim Bernstein, qui est le dirigeant de la NASA, disait qu'on retourne sur la Lune pas juste pour y retourner, on y retourne pour y rester. Donc, j'ai hâte de voir avec les changements de gouvernement et puis les changements de budget quand on va le faire et comment on va le faire. Mais la volonté est là. Il reste maintenant seulement juste à mettre un plan et de mettre des dates et puis d'aller de l'avant. Là. Donc, mais l'intérêt est là, mais c'est de savoir quand ça va être fait.
OK. Mais ça coûte une fortune d'envoyer des gens sur la Lune. Parce que là, ce qu'on fait dans la Station spatiale internationale, je lisais en me documentant pour l'entrevue, il y a quand même des scientifiques qui disent on est peut-être arrivé au bout de ce qu'on peut faire dans la Station spatiale internationale.
Ben, l'idée de la Station spatiale internationale, premièrement, c'était de savoir comment réagit le corps humain pendant de longues périodes pour éventuellement aller vers Mars ou aller vers d'autres cieux, si vous voulez. Là. Donc, on a fait pas mal de recherches, on en fait encore beaucoup, mais on avait aussi le côté industriel. On voulait pousser les industries à venir faire des expériences dans l'espace, à faire développer des nouveaux cristaux, des nouveaux métaux. Et puis ça, je vous dirais que ça n'a pas vraiment été un succès jusqu'à date. Donc, le côté industriel n'a peut-être pas autant suivi qu'on voulait. Mm-hmm. Le côté humain est encore là parce qu'on fait encore des tests. On voit qu'avec David Saint-Jacques, on est en train de développer des petits équipements pour faire l'étude ou l'évaluation du corps humain en orbite, mais qui va servir aussi sur Terre. Mais on tourne toujours pas mal autour des mêmes choses. Là. Donc, il va falloir qu'on regarde à mettre cet argent-là pour d'autres besoins, dont aller bâtir une base peut-être sur la Lune, mm-hmm, ou faire une station autour de la Lune pour aller vers Mars.
Est-ce que le Canada pourrait être impliqué dans des projets comme ceux-là? Est-ce que le Canada est déjà impliqué dans des projets comme ça?
Bon, on l'espère. On a justement le directeur, le premier de la NASA qui est venu à Ottawa il n'y a pas longtemps demander au Canada l'aide et d'embarquer là-dedans. Et puis, on attend toujours le go du Canada et on espère qu'on va l'aider parce qu'on était toujours important, nous, dans le programme spatial. On était le troisième pays à envoyer un satellite en orbite. On a été impliqué très, très, très fortement dans le programme Apollo. Donc, c'est important qu'on fasse la même chose. Et puis, en tout cas, moi, j'espère que notre gouvernement va décider d'embarquer là-dedans. Faut toujours faire attention à la quantité de dollars qu'on met là-dedans, mais pour garder les retombées économiques et les retombées aussi à notre qualité de vie. Donc, faut que le Canada embarque là-dedans.
Et on faut jamais oublier que, bon, on dit souvent que c'est Neil Armstrong qui a mis le premier pied sur la Lune, mais c'est pas vrai. Hein? C'est un Québécois qui a mis le pied sur la Lune, le premier.
C'est les pattes qui ont été faites à Longueuil qui ont mis les pieds. C'est les fameuses tiges et les pattes qui ont été faites à Longueuil qui ont touché au sol. Exactement, les roues d'Eftek qui ont mis les premiers pieds, si vous voulez, sur la Lune. Donc, faut pas oublier ça. Puis, il faut dire aussi qu'il y avait énormément de Canadiens qui ont quitté le Canada après quand on a mis à la poubelle le fameux programme de l'avion CF-105 Avro, qui était le meilleur avion qu'on avait jamais fait conçu. Quand le gouvernement a décidé de mettre ça à la poubelle, tous ces ingénieurs-là ont été appelés par les gens de Houston en disant « on a besoin de vous ». Puis il y en a beaucoup qui ont aidé à mettre ces fameux pieds canadiens-là sur la Lune. Donc, le Canada a toujours été très impliqué dans le programme spatial. Il faudrait continuer de l'être. C'est du développement. C'est bon pour nous.
Monsieur Laplante, merci d'avoir été avec nous. C'était très intéressant.
Ça me fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Benoît Laplante est spécialiste en mission spatiale. Alors, la Chine a donc réussi un exploit qu'aucun autre pays avait réussi auparavant. Ce matin, ils ont mis une sonde sur la face cachée de la Lune.